Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
2 mois de voyage chez vous, c'est en quelque sorte ce que pour la plupart d'entre nous, le Covid-19 nous a offert comme cadeau. Un cadeau empoisonné pour certains, quand il faut ajouter dans la to-do list du jour déjà bien pleine, faire l'école à la maison, et qu'il faut dans le même temps soustraire ses temps passés en dehors du foyer. Le cadeau peut alors s'avérer compliqué, faire du sport dans la salle de bain, répondre à son patron en même temps que l'on emmène le chien faire pipi, ne pas oublier de couper le micro de Skype quand la maîtresse nous met un peu trop la pression et que la moutarde vous monte au nez, bref. De quoi devenir chèvre, courage, on est là. Vite coupe, vite famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec vous, Marie-Aude. Bonjour.
Bonjour Emmanuel,
Vous êtes pour rappel sexologue, conseillère conjugale et familiale. Et puis entre autres dans votre carquois, vous êtes aussi certifiée en risque, en prévention des risques professionnels. Ça peut nous servir aujourd'hui comme expertise. Sébastien Dex se fait excuser pour cette émission car il a des problèmes de santé. On lui souhaite un bon rétablissement. Marie-Aude Binet, vite coup, vite famille, on avait programmé vie professionnelle, vie familiale, comment conjuguer tout ça, on avait eu du nez.
Exactement, c'était pas prévu que le confinement soit présent. Je pense que ça a en effet donné une expérience à tout un chacun et je me mets dans le lot.
Ce qu'on pourrait, ce qui nous vient immédiatement, c'est qu'on se dit que vous avez dû avoir du travail à l'occasion du temps du confinement. Plus que d'habitude ?
Alors, pas du travail plus que d'habitude. En tout cas, une autre manière. Alors, je travaillais déjà à distance. Hein. En tout cas, là, ce n'était que du travail à distance. Donc, d'une manière volontaire de la part des patients qui appelaient. Et il y a eu des questionnements, je dirais, pas forcément nouveaux, mais qui étaient vécus différemment. Puisque quand on est en permanence ensemble, et comme vous le disiez dans l'introduction, qu'en plus on doit gérer les enfants, et qu'en plus il faut quand même continuer pour certains le télétravail, ou pour d'autres gérer psychologiquement l'annonce d'un chômage partiel, et qui a le stress peut-être d'une baisse de revenus économiques, ou bien qu'il y en a un des deux qui a continué à aller travailler à l'extérieur pendant que l'autre gardait les enfants en permanence. Enfin, il y a eu plusieurs cas de figure, plusieurs configurations qui ont donné lieu à quand même de nouvelles problématiques.
Voilà, il y a plein de sondages, on va essayer d'en citer quelques-uns, non pas qu'on soit, on va dire, fan des sondages, mais ça permet un peu de prendre le pouls. Il y en a un que j'ai vu circuler, alors ça je me suis dit, je sais pas comment ils ont fait, il y aurait 25% des couples confinés qui auraient fini par s'engueuler, si je puis me permettre l'expression. Je sais pas s'il y a des caméras chez les gens, bref, en tout cas, certainement qu'il y a eu des frictions, on va en parler. Alors, nous, dans cette première partie, avant... de parler dans la deuxième du télétravail et de l'école à la maison et à la fin du sens dans le travail et on va dire de la perméabilité entre la vie pro, la vie perso quand on a des soucis de santé ou autre. Dans cette première partie, on s'est dit qu'on allait parler un petit peu du travail des femmes et de la situation pour les femmes. Vous n'êtes pas la Marlène Schiappa de Radio Présence, n'est-ce pas ? Et je ne sais pas si vous aimeriez beaucoup d'ailleurs ce compliment. Mais Marlène Schiappa, c'est donc la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est émue à l'occasion de ce temps de confinement des risques pour les femmes d'épuisement silencieux, dit-elle. Disons que la charge mentale allait cette fois exploser. Pour ça, on va faire un petit détour. Et on va parler du travail des femmes. Non pas que les femmes n'aient pas toujours travaillé. On va essayer de voir peut-être quelles ont été les grandes périodes et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Quand je dis qu'elles n'ont pas toujours travaillé, c'est que Marie-Aude, il fut un temps où tout simplement... elle travaillait au champ comme les hommes, non ?
Exactement. Je pense que, en fait, on est comme une sorte, il y a une sorte d'amnésie historique. On a l'impression que les femmes n'ont jamais travaillé dans l'histoire, ce qui est totalement faux. Et même du temps préhistorique, pendant longtemps, on a cru que les femmes n'allaient pas chasser. Et aujourd'hui, on sait que si. Voilà, il n'y a pas que les hommes qui chassaient. Donc, je pense qu'il faut remettre un petit peu à chaque époque, dans le contexte, la réalité, et que les femmes ont eu une participation active à la vie économique sous différentes formes. Donc, dans les champs, bien sûr, mais on le sait au Moyen-Âge, dans la vie des commerces. Elles pouvaient même être patronnes de leur commerce ou partager la responsabilité avec leur conjoint. Et elles étaient amenées à tenir les cordons de la bourse de leur vie familiale. Il y avait de la confiance et ça ne posait pas de soucis. Il y a eu, je dirais, presque un arrêt de ces considérations-là dans certaines couches de la société avec l'arrivée de la Renaissance et jusqu'au début du XXe siècle.
Alors justement, ce qui est étonnant, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, en fait, elles avaient parfois plus de responsabilités, c'était parfois même les responsables de certaines corporations. À la Renaissance, c'était qu'au XVIIIe siècle, donc ça a dégringolé, et il faudra attendre un certain temps, peut-être deux, trois choses là-dessus. J'ai vu qu'au XVIIIe siècle, le travail à l'extérieur du foyer était considéré comme de la prostitution. Figurez-vous, c'est quand même frappant. Et il faut presque attendre en fait le début du XXe siècle. J'ai vu en 1907, les femmes mariées sont autorisées à toucher un salaire. Voilà. 1909, c'est les premiers congés maternité. Et ça fait un peu suite aussi à la Première Guerre mondiale. On peut dire un mot de la Première Guerre mondiale, parce que là, les femmes ont été...
Oui, alors après, je reviendrai quand même sur ce qui s'est passé au XIXe siècle. Avec l'ère industrielle, les femmes ont travaillé dans les usines. Elles ont travaillé au charbon. Il n'y avait pas que les hommes. Elles participaient comme les enfants. Il a fallu justement mettre en place un certain nombre de lois pour que les femmes ne travaillent plus la nuit comme les enfants, qu'elles puissent avoir quelques jours autour de leur accouchement. Enfin, tout ça, ça s'est fait progressivement au cours du XIXe siècle. Donc au XXe siècle, sur la Première Guerre mondiale, en fait, les femmes n'ont pas eu d'autre choix que d'aller travailler puisque les hommes n'étaient plus là. À nouveau, il y a une forme d'arrêt, de stop, parce qu'il faut repeupler la France. Donc on a besoin que les femmes soient au foyer et qu'elles s'occupent plutôt dans ce repeuplement, qu'elles s'occupent de leur maternité. Voilà. Et je dirais qu'il y a vraiment l'évolution se fait après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Voilà, avec une forte influence des États-Unis. Voilà, ça a été étudié avec une volonté que les femmes reprennent le chemin du travail, justement pour stopper un essor démographique.
1945, suppression de la notion de travail féminin, ai-je lu, on a les bras qui en tombent. Et puis dans les années 50-60, leur place est de plus en plus prégnante, jusqu'en 1968 où elle représente 50% de la main-d'œuvre, en tout cas en France. Et en 1972, cette loi qui demande... qui espère, qui appelle, enfin, en tout cas c'est le souhait des pouvoirs publics, à travail égal, salaire égal. On n'a pas loupé de grandes étapes, Mario. En tout cas, on voit que c'est un processus qui est bien long. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Femmes, hommes, elles travaillent presque autant. Hein. C'est assez impressionnant. La part dans la population active est quand même devient de plus en plus similaire presque. Hein.
Oui, et c'est un choix qu'elles font, je dirais, librement. Après, il peut y avoir des raisons économiques, mais comme pour les hommes, sinon c'est un choix qu'elles font librement et elles y trouvent leur épanouissement. Elles peuvent avoir des responsabilités, même si on dit que ça reste compliqué dans certaines entreprises. Elles peuvent être aujourd'hui créatrices de leur propre entreprise. Il y a suffisamment d'associations, de fédérations qui regroupent des femmes entrepreneuses. Donc oui, il y a la possibilité, la liberté, la capacité pour une femme aujourd'hui de se réaliser dans le monde du travail. Après, il y a encore des inégalités, ça on ne peut pas les gommer, c'est une réalité. En termes de salaire et en termes d'accession à des postes à responsabilité.
Les salaires, juste en 2016, c'était encore 25% d'écart de salaire. Hein, 25% d'écart de salaire. Après, quand on rentre dans le détail, c'est parfois plus subtil. On a fait des progrès puisque c'était 65% dans les années 60 et 80%. C'était 45% puisqu'il faut faire la soustraction. 35% puisqu'il faut faire la soustraction et 20% dans les années 90. Mais il en reste 15%.
Oui, et c'est une réelle injustice. Par contre, je relativise toujours le propos qu'il y a dans le néo-féminisme de dire que les femmes ne peuvent pas avoir tous les postes. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais c'est pareil pour les hommes. Vous avez un monde comme l'éducation nationale où avant c'était essentiellement des hommes, maintenant c'est essentiellement des femmes. Dans le monde de la santé, c'est pareil. Je suis dans une profession en tant que sexologue où avant il n'y avait que des hommes, maintenant il y a pratiquement que des femmes. Donc je pense que c'est aussi, il faudrait être un peu juste et se dire qu'il y a des milieux professionnels dans lesquels les femmes, même dans la justice, il y a plus de femmes aujourd'hui alors qu'avant c'était essentiellement des hommes. Donc il faut remettre aussi les choses un peu à leur place et se dire, les femmes elles ont conquis du territoire. Et que quelque part, il faut apprendre aujourd'hui à respecter les compétences et des femmes et des hommes sans chercher à se faire la guerre à tout prix dans les différentes sphères de la vie économique.
Alors, on fait pas la gueule à ces messieurs, hein, si je puis me permettre l'expression, mais voilà, c'est l'angle qu'on a choisi. Et puis, comme on sait qu'on a pas mal de femmes qui nous écoutent, on en profite. Peut-être on peut aussi, avant de faire une première pause musicale, dire un mot du travail domestique pour faire écho à la préoccupation de Marlène Schiappa, secrétaire d'État, dont je rappelle la charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'épuisement silencieux d'un certain nombre de femmes. Alors, on pense peut-être, entre autres, à celles qui sont mères célibataires, qui ont leur travail à temps plein à la maison, qui en plus doivent faire l'école, parfois dans des appartements qui ne sont pas immenses, avec les voisins qui ne sont pas contents dès que les enfants font du bruit. Bref, il faut presque avoir deux emplois du temps dans la même journée. Là, les tâches domestiques, on va dire qu'elles ne sont pas partagées, mais parfois, elles restent peu partagées ou pas assez.
Alors, pour les familles monoparentales, il est clair qu'il y a une surcharge. Hein, qui est matériel, psychologique, voilà, ça c'est sûr. Maintenant, pour les couples, je pense que le confinement a donné lieu à certains couples, en tout cas moi j'en ai accompagné là-dessus, typiquement sur cette organisation, c'est peut-être de clarifier un mode d'organisation avec un planning, avec une répartition des tâches qui crée une forme d'équité, entre les conjoints et aussi avec les enfants qui étaient présents au domicile. Ça permettait de redécouvrir le vivre ensemble et de se dire chacun y a sa part. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pu découvrir qu'elles pouvaient déléguer parce que on peut dire oui les pauvres femmes, mais enfin il y a énormément de femmes qui n'arrivent pas à déléguer, qui n'arrivent pas à lâcher et qui du coup le conjoint il pourrait faire des choses mais il finit par dire c'est pas la peine, de toute façon ça marche pas, si c'est moi qui le fais elle reprend tout de suite en main. Donc
j'ai vu que dans la plupart des couples ou des familles, la plupart du temps c'est encore madame qui fait les repas par exemple.
C'est une réalité, mais en même temps moi j'accompagne des couples où ce sont les hommes qui cuisinent et les femmes disent de toute façon j'aime pas ça et je sais pas. Donc, je pense qu'il faut toujours faire attention aux généralités et de se dire que tous les cas de figure existent et que ce confinement a permis de repositionner pour beaucoup, hommes comme femmes, la place du travail. Et il y a quand même des femmes qui m'ont dit finalement, je suis contente de retrouver mes enfants, je passais à côté et je ne pensais pas que j'étais capable de les supporter. Et certaines se reposent la question d'une reprise de travail dans les mêmes conditions qu'avant le confinement.
On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver Marie-Aude pour parler, on va dire, rentrer dans le dur du sujet puisqu'on va parler télétravail et école à la maison. Certainement que les auditeurs ont entendu bien des choses, ont lu des choses dans la presse, mais chacun essaie de faire sa part et nous aussi. J'ai noté aussi une information intéressante à l'occasion de cette crise. C'était dans le journal Le Monde le 11 mai dernier, donc lundi dernier, disant que cette crise potentiellement, ou en tout cas même dès aujourd'hui, pouvait toucher davantage les femmes qui sont très présentes, entre autres, dans le secteur du tourisme et du service à la personne. Les femmes dont le taux de pauvreté est plus élevé que celui des hommes en France. Bref, il faudra y être attentif.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coup, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin en ce jeudi, avec comme sous-titre, puisque c'est un de nos rendez-vous, sous-titre, je ne sais pas si c'est un sous-titre, bref, le thème c'est concilier la vie professionnelle et la vie familiale, et ça tombe bien, le pire c'est qu'on n'avait pas fait exprès, puisqu'on on l'avait programmé bien à l'avance, et nous sommes avec vous, Marie-Aude Binet, vous êtes, pour rappel, sexologue, conseillère conjugale et familiale, et certifiée en prévention des risques professionnels. Sébastien Dex, je le dis aussi par amitié pour lui, s'est fait excuser puisqu'il est votre compère. Il a des soucis de santé et pas des petits. Alors, travail, télétravail. On va commencer par le télétravail. Là aussi, c'était dans le journal Le Figaro, lundi dernier. Comment les Français se sont adaptés au télétravail? Et selon un sondage cité par Le Figaro, 73% de ceux qui œuvrent désormais depuis leur domicile souhaitent continuer après la crise de manière régulière ou potentielle. Ça appelle un certain nombre de commentaires. On parle des bonnes nouvelles à l'occasion de ce temps de confinement. Marie-Aude Binet, est-ce que c'est aussi ce que vous entendez dans votre cabinet ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Et oui, puisque dans le cadre de mon coaching, dans les accompagnements que je fais quand les personnes sont en situation de souffrance au travail, il y en a certains qui avaient demandé du télétravail à leur entreprise, qui le refusaient. Et en fait, les entreprises jusqu'à maintenant, même si la loi leur disait qu'elles pouvaient et qu'elles même devaient le faire, beaucoup d'entreprises étaient en résistance pour accorder ce télétravail au moins une journée par semaine, en prétextant que ça coûtait trop cher, que ça nuirait à la qualité du travail, que ce serait compliqué de contrôler ses salariés et que du coup, bah non, il fallait pas le faire, il fallait être en présentiel. Bah, tous ces arguments tombent à l'eau. Donc c'est clair que ça va créer un grand changement dans le monde de l'entreprise.
Vous pouvez citer juste un exemple où, de fait, la personne demandait le télétravail.
Alors, et ça j'ai eu un couple où lui, donc c'est un ingénieur qui habite à une heure de son travail, donc circulation, gros bouchons le matin et le soir, et qui a demandé plusieurs fois à avoir une journée en télétravail de manière à être moins stressé. Et en plus, il avait des horaires, il avait une forte responsabilité, donc il rentrait très tard chez lui le soir, tous les soirs. Ça lui a été refusé pendant 5 ans. Et il a fallu qu'il finisse par avoir quasiment un burn-out et qu'il insiste au risque de perdre son travail pour obtenir cette journée. Et il m'avait témoigné, ça m'a tout changé.
Voilà, une seule journée par semaine.
Une seule journée par semaine. Donc là, je ne l'ai pas accompagné pendant le confinement, mais je pense qu'il a été en télétravail une bonne partie du confinement et que du coup, il a retrouvé une qualité de vie. En fait, c'est ça qu'il y a derrière le télétravail. Et le témoignage de ceux qui sont en télétravail le disent, ils sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus efficaces, je dirais même efficients, parce qu'ils sont concentrés sur leurs tâches, qu'ils ont le plaisir, la simplicité, la souplesse d'aller se faire leur tasse de thé tranquillement, de sortir dans leur jardin prendre l'air et de revenir. L'écueil du télétravail, c'est d'être coupé, je dirais, physiquement et socialement des collègues. Donc certains, c'est pour ça, ne sont pas forcément pour un télétravail à 100%, mais peut-être sur un mi-temps et de manière à avoir un confort de vie, parce que ça a un réel impact sur la santé physique. Il y a un meilleur sommeil, il y a moins de stress. Et sur la qualité de vie personnelle à la maison.
Alors, avant le temps de confinement, il y avait 1,8 million d'actifs en France qui télétravaillaient. Aujourd'hui, ils sont 5,1 millions, donc ça fait quand même une sacrée différence. Et parmi eux, de fait, il y en a une bonne partie, justement, qui demande à ce que ça continue, à ce que ça puisse être prolongé. On a même vu des entreprises annoncer des mesures assez extrêmes. J'ai vu passer ça, ça m'a un peu étonné. PSA, dès cet été, toutes les fonctions du tertiaire, de la recherche et développement et des fonctions administratives et commerciales pourraient passer en télétravail. Voilà, donc ça paraît un peu radical, mais en tout cas, ça dit peut-être un début de tension. Maintenant, la différence, Marie-Aude, c'est que là, parfois, il y a deux personnes en télétravail à la maison. Alors, on va parler des enfants après, de l'école à la maison après, mais deux personnes, il faut avoir une grande maison pour chacun avoir son bureau déjà.
Alors,
pour commencer.
tous les couples n'ont pas été à égalité là-dessus, ça c'est sûr. Hein, être confiné dans un appartement...
Pauvre parisien.
Pour les parisiens, mais même dans des grandes villes comme Toulouse, il y a des couples qui se sont retrouvés dans 70 mètres carrés avec deux pièces. Et du coup, c'est lequel qui travaille dans la chambre, lequel dans le salon. Il faut déjà se répartir le territoire et se respecter parce qu'il y en a un qui va être en visioconférence à telle heure alors que ce sera l'autre à un moment donné. Donc oui, ça a demandé des compromis et un aménagement du planning, de se faire un planning par rapport à concrètement le travail qui est demandé.
Parmi toutes les choses auxquelles vous avez réfléchi ou que vous avez lues, ce serait quoi les trois conseils clés pour bien télétravailler à deux, quelle que soit la surface du logement ?
Alors, c'est justement d'avoir d'abord... d'être déjà soit assez clair sur la manière dont on a envie de télétravailler ou alors suivant les consignes qui ont été données par l'employeur. Puisque d'une entreprise à l'autre aussi, ça peut varier.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y en a, ils auront systématiquement des réunions tous les jours et d'autres, ça va être qu'une fois par semaine. Il y en a qui, tous les jours, vont devoir faire un compte-rendu de leurs activités et d'autres, pas du tout. Donc, il y a ces conditions de travail à distance qui changent radicalement la manière de travailler au quotidien. Et en tout cas, psychologiquement aussi, d'être en rapport avec son travail. Ensuite, il y a le temps passé au travail. Il y en a qui travaillent très vite, donc qui vont télétravailler pendant 6 heures, et d'autres qui vont avoir besoin de télétravailler 8 heures. Donc, vous voyez, ça va demander vraiment un aménagement.
Puis il y en a qui se lèvent tôt et d'autres qui...
Exactement, il y en a qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt du soir. Donc, c'est de se dire, à quel moment on travaille et à quel moment on ne travaille pas. Et quand on ne travaille pas, quel est le temps qu'on prend pour soi personnellement ? Quel est le temps qu'on prend en couple ? En fait, c'est une discussion. Et quand on est avec des enfants, quels sont les temps qu'on passe en famille ? Et pour ceux qui avaient des enfants avec l'école à la maison, ça a demandé, et je l'ai vécu personnellement, ça a demandé de se répartir. À tel moment, c'est toi qui fais travailler les enfants pendant que moi, je travaille, et vice-versa. Et du coup, ça occasionne une solidarité parce que on est dans le même bateau et il faut juste trouver... les bons aménagements pour que chacun y trouve son épanouissement et en tout cas, ça ne crée pas des tensions compliquées.
Il faut se faire des pauses à la machine à café avec son conjoint ou pas ?
Alors, pourquoi pas ? En tout cas, une chose intéressante, ce que moi j'ai expérimenté, c'était la récréation des enfants. C'est-à-dire que dans la matinée, il y avait un temps de récréation. C'était un temps de récréation pour nous aussi. Donc, soit pour aller faire quelque chose qui nous détendait.
Il ne faut pas se tromper quand même. Il ne faut pas que ce soit les enfants qui boivent le café parce que là, ça...
Notamment. Mais en tout cas, il y avait ces temps-là. Enfin, je pense qu'on peut faire les choses de manière légère et de manière même humoristique. Et puis pareil dans le planning, enfin oui je pense que ça, en tout cas moi je l'ai accompagné pour certains coups, je leur dis mais est-ce que vous avez fait un planning de vos journées ou de votre semaine ? Donc certains n'y avaient pas du tout pensé.
Avant de se taper dessus.
Exactement.
C'est encore mieux.
Et de vivre des frustrations parce que réellement quand même le confinement a fait vivre des frustrations. Et c'est normal qu'on puisse être énervé à cause de ça. Et du coup, il y a notamment un couple, au bout de 15 jours, ça commençait à être déjà compliqué. J'aurais dit, vous faites un planning ? Ils m'ont dit non. Donc je leur ai proposé d'en faire un. On en a discuté comment le faire. Je les ai eu 15 jours après. Ils ont dit, ah oui, ça nous a quand même bien soulagés. Voilà, ça a ordonné les choses.
Il y a des plannings dans les monastères. Hein. On avait lundi dernier le père abbé de l'abbaye d'Ancalcar. J'imagine que... Je ne sais pas comment il ferait sans. Bref, en tout cas, le télétravail, on a l'impression que c'est quand même d'abord une bonne nouvelle, ou en tout cas, ça s'est correctement passé, si on en croit ce sondage du Figaro, cet article du Figaro, et puis on pourra en trouver d'autres, puisque presque plus des deux tiers des Français disent que ça a été une expérience heureuse. Alors, je ne sais pas s'il en est de même, vous allez nous dire, Marie-Aude, même si vous n'avez pas fait de sondage à l'échelle de la France, quid de l'école à la maison ? L'école à la maison, c'est quand encore parti pour un bout de temps pour un certain nombre de parents, puisque les enfants du primaire ont pu recommencer donc le 11 mai, et encore, hein, voilà, je vous vois faire la moue, vous allez nous faire vos commentaires. Et collège et lycée, donc les collèges, ça serait le 18 mai, le lycée le 2 juin, mais tout ça reste à confirmer. Encore les collèges, c'est les 4e et les 3e sont à distance. Bref, on est quand même parti pour continuer à faire l'école à la maison jusqu'aux grandes vacances, et donc pour une bonne partie des gens jusqu'en septembre. Ça fait long.
Ça fait long, et c'est vrai que ça a demandé un réaménagement même des relations entre les parents et les enfants, puisque c'est pas la même chose d'avoir ses parents comme parents et d'avoir ses parents comme instit. Donc ça a été, je dirais, un apprivoisement pour beaucoup de parents et d'enfants. Et puis, il y a quand même des parents qui ont eu de belles découvertes hein, et qui se sont dit bah, qu'ils avaient plaisir aussi à vivre ces moments-là avec leurs enfants. Et c'était une autre manière de les découvrir, de les connaître, de voir leur progrès, parce qu'il y a eu une grande satisfaction pour beaucoup de parents de voir progresser eux-mêmes leurs enfants. Et du coup, de ne pas être à distance de voir grandir leurs enfants comme ça. Et je pense que pour les parents, c'est un retour très agréable, puisque non seulement on transmet, mais on voit l'effet de ce qu'on transmet. Et puis...
Si on commence par les choses positives, il y a aussi peut-être les enfants, que les parents aient le temps ou s'intéressent à ce point, dans le détail, à ce qu'ils font. Parce que parfois, c'est bon, ça s'est bien passé aujourd'hui, et puis on n'a pas le temps de parler des Français et des maths.
Il y a une participation active. Voilà, s'il faut faire une grenouille ensemble en papier mâché, on va la faire ensemble. Donc, il y a vraiment du temps qui est donné, une disponibilité du parent, et que les enfants n'avaient peut-être pas eu depuis un certain temps. Et vraiment, j'ai le témoignage de père comme de mère, qui disent à quel point ils ont apprécié de redécouvrir ces moments. Après, je ne dis pas que quand c'est très long, c'est toujours facile. Il y a des moments où on peut avoir envie de prendre l'air, d'avoir du silence, d'être tranquille sans les enfants dans les pattes. Ça, c'est humain.
Alors moi, j'ai juste une question, c'est que pour moi, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Or, normalement, on a juste deux fois une journée d'emploi du temps quand on est parent, si vous m'avez suivi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se faire tenir 3 dans 2 ?
Alors, c'est...
On travaille moins ou...
Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est... On a pu tous découvrir notre capacité à nous adapter. À nous adapter à une nouvelle façon de travailler. Quelque part, il a fallu faire face à une crise. Quand on est face à une crise, on est dans une urgence, mais du coup, on va chercher en soi des ressources qu'on n'avait pas forcément identifiées ou exploitées. Et finalement, et c'est quand même le constat qui est fait, les Français se sont quand même très bien adaptés. Qu'ils sortent encore pour travailler, ou qu'ils travaillent chez eux, ou que même ils soient en chômage partiel, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pratiquement plus. Donc il y a vraiment
les Français qui sont déjà parmi les plus productifs du monde.
Exactement.
Là, ils ont dû exploser les compteurs.
En tout cas, il y a eu ce phénomène d'adaptation, et même si beaucoup étaient contents le 11 mai de ressortir pour travailler, parce qu'il y a aussi un phénomène de retrouver les collègues et de sortir de chez soi, comme vous le dites dans ce sondage, il y en a beaucoup qui ont eu plaisir d'être chez eux et de profiter aussi de la vie de famille, de leur maison, de revenir à une vie un petit peu plus ancrée.
J'ai vu passer cette phrase qui m'a fait sourire dans un article. On a peur qu'ils deviennent débiles en 10 jours. Et on entendait par là, en fait, la pression aussi parfois qui a été mise sur les élèves, une certaine exigence hein, qui partait certainement de quelque chose de justifié. Mais on a peur qu'ils deviennent débiles en 10 jours. Ça m'a fait sourire. La suite de l'article était moins agréable, puisque cette crise, on voit aussi circuler des articles qui disent qu'elle creuse les inégalités sociales. Il y a des enfants qui n'ont pas Internet. Hein. Il y a quand même 6,8 millions de Français qui n'ont pas Internet chez eux. C'est pas forcément des gens qui vivent au temps de la préhistoire. Il faut aussi avoir les moyens de se payer un ordinateur dernier cri, etc. Et puis parfois, il faut avoir le haut débit aussi. Hein. Les fameuses zones blanches, elles sont parfois pas loin de métropole dans le sud-ouest.
Oui, alors il y a en effet cette réalité-là. Il y a l'autre réalité de parents qui n'ont pas non plus la possibilité, soit en termes de temps, de disponibilité, mais même la capacité d'accompagner leurs enfants dans le travail scolaire. Et qu'il y a du décrochage scolaire qui s'est créé parce qu'il y a eu du décrochage de l'enfant et que les parents n'ont pas pu non plus suivre ou assumer. Et puis après, il y a des réalités qui font que des enfants ont refusé que les parents les fassent travailler. Donc quelque part, il vaut mieux lâcher que d'avoir en permanence un conflit quand on est confinés tous les uns sur les autres. Et voilà, donc il y a plusieurs réalités familiales ou sociales, économiques, qui ont interféré avec cette école à la maison. Et il y a même des parents, alors il y a des instituts qui le disent en plaisantant, en disant, on disait aux parents que tel enfant avait une difficulté, les parents étaient dans le déni. Et là, en faisant travailler leurs enfants, ils ont appelé en disant « Ah oui, vous aviez raison, il y a des troubles de la concentration. » Donc il y a aussi une prise de conscience des parents, des difficultés ou des besoins d'aide pour leur enfant.
Et de la qualité du travail des enseignants.
Et je pense qu'il y a une sacrée reconnaissance aujourd'hui.
Des maîtresses aussi, parfois, qu'on voit juste comme des gardes d'enfants.
En tout cas, si en tant que parent, on a du mal à faire travailler nos 2 ou 4 enfants à la maison, comment font les instituts qui en ont 25? Donc je pense qu'on peut remettre en effet en valeur ce travail des instituteurs qui en plus ont fait un travail en distanciel quand même très important.
Ah oui, il y en a qui ont beaucoup plus travaillé que d'habitude et les profs et les enseignants en font partie. Mmh. Hein. Alors Mario de Binem, la même chose que pour le télétravail, si vous deviez nous donner 2-3 pistes quand même pour ceux qui continuent à ramer et à trouver que c'est lourd et pour qui ça dure. Là aussi, la solution, c'est le tableau Excel et l'agenda, ou est-ce que vous en avez d'autres à nous suggérer ?
Je pense que d'abord, ça a été dit un peu dans le milieu, même dans le corps enseignant, c'est de ne pas mettre la pression aux enfants.
Ils ne vont pas devenir débiles en 10 jours.
Exactement. S'ils n'ont pas fait tel exercice, ne dramatisons pas. S'ils n'ont pas voulu faire de maths le lundi, c'est pas grave. Enfin, il y a un moment donné, en plus, bon, quand même, très concrètement, on arrive sur le mois de juin, il n'y a plus d'enjeu, concrètement. Mais et de se dire que l'enfant est en plein apprentissage, donc il est, entre guillemets, malléable, il va rattraper un retard s'il en a pris un. Ça va se faire. Alors après, c'est vrai que ça va demander quand même aux enseignants et aux parents de rester proches de l'enfant quand il y aura une reprise scolaire à la rentrée prochaine. En tout cas, de ne pas dramatiser, de ne pas s'affoler et de ne pas rendre anxieux l'enfant lui disant « t'y arrives pas, t'es nul ». Non, là, c'est pas possible. Et puis de se rendre compte de ses propres limites. Bon, si là, c'est pour que je m'énerve, si c'est pas la peine. Je n'y vais pas. Par contre, je peux faire une autre activité. On peut faire un jeu de société qui permet à l'enfant d'acquérir d'autres compétences. On peut regarder un documentaire animalier qui permet à l'enfant de faire une découverte. On peut aller dans son jardin, regarder comment est fait une coccinelle, comment l'escargot, parce qu'il pleut là en ce moment, comment vit l'escargot. Il y a plein d'autres manières de vivre des découvertes et de faire découvrir les choses aux enfants.
Je vous en suggère une avant qu'on fasse une deuxième pause musicale de piste. Donnez-nous une clé pour la gestion des écrans. Parce que le monde extérieur, quand même, arrive aujourd'hui d'abord via les écrans. Donc, on peut passer beaucoup de temps, trop de temps, chacun derrière son ordi.
Je vous renvoie à toutes les préconisations suivant les âges, c'est évident. La difficulté, en effet, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de devoirs sont donnés via l'écran, que même chez les enfants du primaire, il y a des exercices qui sont sur Internet. Donc, ils sont déjà devant l'écran pour leur travail. Après, c'est de privilégier un temps d'écran loisir qui est géré par les parents.
Faut pas des zones blanches dans l'emploi du temps, non ?
Alors, en fait, soit on décide...
Des périodes où on débranche tout ?
Soit on se dit... il y a le travail tous les jours, sauf le week-end. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas école le mercredi, le mercredi, on travaille pas. Donc, pas d'écran travail. Et après, on peut se dire, y a un écran loisir une fois par semaine ou un petit peu tous les jours. Voilà, ça peut être une demi-heure tous les jours ou ça peut être qu'une heure et demie, deux heures dans le week-end. Ça, c'est à chaque famille de pallier. Après, il y a toujours la difficulté dans les familles quand il y a une grande différence d'âge. S'il y en a un qui a 17 ans et l'autre qui en a 3, on ne gère pas les écrans de la même manière.
Oui, ce 3 ans, on regarde quand même plus la télé que ce 17 ans, ça va de soi. On essaie de faire de l'humour, on fait ce qu'on peut. Allez, on fait une deuxième pause et puis on vous retrouve, Marie-Aude. On va parler du sens au travail, entre autres.
Thank you.
l'Église, Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, l'un de nos rendez-vous. Ce matin, nous sommes avec vous, Marie-Aude Binet. Vous êtes sexologue, conseillère conjugale et familiale et certifiée en prévention des risques professionnels. Faites partie des habitués de cette antenne et on vous en remercie. Vous nous rendez bien service, même si vous n'êtes pas la seule conseillère conjugale et familiale de Toulouse. Cela va sans dire et on espère que Sébastien Dex sera avec nous lors de la prochaine émission. Donc, pour la fin de cette émission... on va dire sur, la répartition travail vie de famille. On s'est dit, vous vouliez parler de la question du sens dans le travail et puis de la perméabilité entre les difficultés personnelles et professionnelles. Alors là, on marche plus sur une corde intérieure, on va dire. Ça peut être plus difficile à cerner. Pour vous lancer, qu'est-ce que je vous dirais ? Je vous dirais que si on essaye de trouver des sondages d'opinion sur le travail en France, on lit des choses en fait très contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois les Français, pour la plupart, disent qu'ils aiment leur travail, contrairement souvent à l'idée qu'on s'en fait. Il y a bien des sondages qui disent ça. Mais on a l'impression en effet qu'il y a quelque chose qui affleure, auquel on ne pense pas tous les jours, mais quand il n'est pas là, ça devient terrible. C'est la question du sens. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Oui. Il y a un questionnement de plus en plus important, alors après qui est aussi générationnel, hein, qui fait que je veux bien travailler, je veux bien répondre à... me mettre dans une stratégie d'entreprise, répondre à des objectifs, mais quel est le sens ? Pour aller où ? Voilà. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens, parce qu'il y a une instruction, parce qu'il y a les moyens d'information, moyens de réflexion. Et il y a un désir d'être réellement acteur de sa vie professionnelle comme de sa vie privée.
Avec des chiffres impressionnants chez la jeune génération. Hein. Moi, j'ai vu des chiffres, ça tourne autour de 80-90% des diplômés qui veulent travailler dans une entreprise qui a du sens.
Exactement. Et donc, alors, on en parle beaucoup par rapport au sens environnemental, mais il y a le sens éthique. Donc, l'éthique est très questionné, et surtout que c'est du sens, c'est-à-dire que je ne vais pas gaspiller mon temps à faire quelque chose qui ne me plaît pas.
Et attention, le sens et qui ne me plaît pas, c'est déjà deux choses différentes, si je peux me permettre.
En tout cas, ça, il y a les deux en même temps, parce qu'on ne peut pas donner du sens à quelque chose dans lequel on ne se sent pas bien. Enfin, il faut qu'il y ait les deux. Là, aujourd'hui, si on a une génération, si on a beaucoup de quadras qui changent de travail, même en sacrifiant la qualité, le salaire, le niveau de salaire, qui sont prêts à déménager, qui sont prêts, etc., c'est parce que, justement... ils ne se sentaient pas bien dans leur travail et donc ils se sont questionnés sur le sens. Et du coup, il y a eu un cheminement. Je dirais que c'est tout un travail de discernement. Et pour certains, le discernement a été en corrélation avec une vie de famille dans laquelle ils ne trouvaient pas d'équilibre. En fait, on a passé des générations entières à se dire, on cloisonne, il y a la vie professionnelle d'un côté et la vie personnelle de l'autre. Non, on ne peut pas cloisonner. Ce n'est pas possible. Donc, si on a une difficulté dans la vie personnelle... Quoi qu'on en dise, on va en transporter une partie en franchissant la porte du bureau et vice-versa.
Alors avant de parler, si vous voulez, de la perméabilité entre cette cloison qu'on imagine, j'aimerais qu'on continue encore sur le sens du travail. Je lisais aussi un autre article, cette fois c'était le journal Le Figaro qui faisait état d'une grande étude sur les bullshit jobs. Pardon si certains trouvent ça vulgaire, mais en français ça veut dire les jobs à la con. On se dit par là, enfin... Ce qu'on peut entendre derrière ça, c'est qu'en fait, ça serait un luxe de trouver un sens à son travail et qu'il y aurait des travaux pour lesquels il serait plus difficile de trouver un sens. Est-ce que c'est juste, Marie-Aude Binet ? Est-ce qu'on ne peut pas toujours trouver du sens à son travail, puisqu'on est une radio chrétienne ? Est-ce que le travail en lui-même, quelque part, n'a pas déjà un sens ?
Alors oui, vous relisez la doctrine sociale de l'Église, ça permettra de comprendre un petit peu combien l'Église valorise le travail en termes de contribution au bien-être de l'humanité. C'est-à-dire que je participe à ce que l'humain, la personne, trouve sa place dans la société. Et donc il y a une attention particulière à avoir, notamment vis-à-vis des plus fragiles, pour qu'eux-mêmes puissent trouver cette place-là dans le travail. Puisqu'on sait que le travail participe à la dignité humaine. Alors pour moi, tout travail a du sens. Je prends les éboueurs. Moi, quand j'étais petite, on me présentait toujours comme ce travail comme étant un moins bon travail. Et en fait, quand il y a des grèves d'éboueurs, on voit à quel point il est nécessaire que ces personnes remplissent ce travail et qu'elles le font pour le bien-être de tous. Et du coup, ça donne du sens, c'est-à-dire qu'elles contribuent alors, à l'environnement, mais aussi à la propreté, à l'hygiène, au fait de pouvoir se promener tranquillement. Enfin, on peut donner du sens à tout travail. Simplement, en fait, pour donner du sens, il faut trouver en soi la motivation. Et c'est souvent cette question de la motivation qui est problématique. Qu'est-ce qui me motive à aller dans ce travail-là? Et est-ce que cette motivation va me faire grandir, va donner du sens? Et est-ce que je peux faire un choix librement? Et ça, c'est tout un discernement, parce que quand on prend la décision de changer de travail, de démissionner, il y en a qui, au cours du confinement, ont pris la décision de démissionner. Ou d'aller vraiment dans une reconversion qu'il mettait du temps à mettre en place.
Voilà, et puis je citerai aussi le catéchisme de l'Église catholique, ça fait un peu sérieux de dire ça, mais qui dit la chose suivante, c'est la collaboration de l'homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création. Voilà, certains disent, même en souriant, j'ai trouvé cette citation de Saint-Vincent de Paume, que lui, Dieu travaille incessamment, donc il n'y a pas de mal quelque part à travailler, ou même c'est ce qui fonde aussi la dignité de l'homme. Alors vous teniez à la fin de cette émission donc à insister sur la perméabilité, je vais y arriver, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. J'allais dire, ça va de soi, Marie-Aude, le problème c'est quoi? C'est qu'on a du mal à se l'avouer, ou que l'entreprise fait comme si ça n'existait pas?
Alors maintenant, l'entreprise ne fait plus comme si ça n'existait pas, parce qu'il y a quand même une évolution sociétale importante, notamment avec les séparations, avec le travail, enfin les changements personnels qui ont une influence sur le travail, sur la disponibilité. Mais par contre, il y a des personnes qui considèrent que quand elles rentrent chez elles, elles n'ont pas à parler de leur travail. Elles ne vont pas envahir l'autre, l'embêter avec les problèmes du travail. Donc ça, c'est une question de culture, peut-être d'éducation. Et en fait, on se rend compte, j'ai vraiment accompagné des couples qui ont vécu ça, que je pense à un homme qui avait des gros problèmes dans son travail, qui n'en a jamais parlé à sa femme et qui a fini par la tromper. Et elle ne comprenait pas, ça allait très bien dans leur couple, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il était en train de déprimer, ça allait très très mal. Et il disait, mais ça ne servait à rien que je lui en parle, parce que je n'allais pas l'embêter avec ça. Au résultat des courses, ça a eu un impact sur la vie conjugale. On peut avoir, au contraire, des vies conjugales très complexes, avec une peur de séparation, qui fait qu'on arrive au travail en n'ayant pas dormi, on mange de moins en moins, donc on a des difficultés de concentration, des difficultés à vraiment être dans le lien social de manière apaisée, et ça peut participer, quelquefois, a une impression de ne plus être à sa place et du coup de décrochage. Donc, alors, je prends des situations très, pas dramatiques, mais en tout cas importantes.
Alors là, c'est le constat. Donc, quelle leçon vous en tirez?
Eh bien, qu'en fait, il est vraiment important, et ça, le confinement, je pense, est peut-être un enseignement pour certains couples, c'est de ne pas tenir à distance la réalité de ce qui est vécu dans la vie professionnelle. On peut y passer 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc, on passe presque plus de temps au travail qu'avec son conjoint. Si on gomme, si on cache cette partie de sa vie...
Le travail, c'est aussi des relations, d'autres relations.
D'autres
donc,
relations.
Ne pas parler des autres relations qu'on a ou des relations qu'on a eues pendant la journée, c'est un peu...
Il y a ça, et puis c'est une réalisation personnelle. Quand on se réalise dans son travail, c'est dommage de ne pas en faire bénéficier de ce plaisir à son conjoint. On y apprend des choses, donc on a de quoi partager. Et en fait, donc, quand on ne partage pas ça, on coupe quelque chose dans la relation. Et c'est vraiment dommage. Et puis après, je dirais, c'est aussi de repenser personnellement et ensemble, où est la priorité? Est-ce que la priorité, c'est le travail? Est-ce que c'est la vie de couple? Et du coup, de revoir peut-être la répartition du temps. Et puis, ça peut occasionner de nouveaux choix pour certains couples.
Quid de la côté entreprise, Marie-Aude Binet? Je tombais sur un article, décidément j'ai lu quelques articles pour préparer cette émission, vous me direz c'est mon travail, qui laissait entendre que ça devient de plus en plus une question pour les managers, je ne sais pas si ça l'était moins avant, en tout cas ça fait partie de son job d'une certaine manière aujourd'hui, et que de savoir ouvrir la porte avec, on va dire, à sa place, avec délicatesse si possible, quand il sent que l'un de ses salariés a des problèmes personnels.
Alors, c'est une invitation qui est faite aux managers dans la gestion humaine de ces équipes. Je dirais que là, on est presque face à une question de personne, parce qu'il y a des managers qui ne le font pas et qui ne sont pas très doués forcément pour ça. Et puis après, il y a des salariés qui n'osent pas, qui disent « si je dis quoi que ce soit, on va me prendre pour quelqu'un de faible et je risque de ne plus être reconnu ».
Qui ne se reconnaît pas dans cette phrase, quand même. C'est...
Voilà. Et donc, il y a encore une croyance...
La vie d'entreprise, c'est comme Facebook, il faut toujours sourire. C'est...
Exactement. Mais du coup, il y a une croyance qu'on n'a pas le droit d'être affectivement, émotionnellement affecté par quelque chose. Et du coup, il peut y avoir... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out dans des entreprises qui sont passées inaperçues. Hein. C'est-à-dire que la personne ne montrait rien, ne disait rien. Et le manager a très bien pu passer à côté de ça parce qu'il n'y avait aucun signe. Puis tout d'un coup, ça explose.
Et donc,
c'est toujours...
Vous laissez entendre que la loi aujourd'hui, la responsabilité économique et sociale de l'entreprise, comprenait cette invitation faite au manager.
Aujourd'hui, et ça c'est dans la loi, dans le Code du travail, il y a une obligation aujourd'hui pour les employeurs de tenir compte de tout ce qu'ils mettent à disposition en termes de moyens auprès de leurs salariés pour qu'ils soient dans des bonnes conditions, de manière à ce que leur santé physique et psychologique soit correcte au travail.
Et vous qui êtes certifié donc en prévention des risques professionnels, quand vous intervenez dans l'entreprise sur ce sujet, enfin, ça veut dire quoi concrètement? C'est...
Alors souvent,
lors de l'entretien annuel, le patron ou le manager normalement doit ouvrir la porte à cette question, quitte à ce que le salarié la referme tout de suite.
Alors ça peut être dans l'entretien annuel, mais ça peut être à d'autres occasions. Ça peut être, alors c'est pareil, c'est toujours la qualité relationnelle qui est vécue au sein d'une équipe. Et quelquefois, ça ne se passe pas forcément avec le manager, ça peut se passer entre collègues. Mais en tout cas, de favoriser un climat, humaniser la vie professionnelle. Voilà, on reste des humains et on a tous des besoins, on a tous des envies, on a tous des fragilités ou des limites.
Voilà, donc comme quoi, hein, la machine à café, on peut pas s'en passer. Il faut une bonne machine à café sur son lieu de travail et ça peut mettre de l'huile dans bien des rouages. Merci beaucoup, Mariotte Binet, d'être venue ce matin au micro de Vivante Église. Et puis, on se donne rendez-vous peut-être à la rentrée pour une prochaine émission Vite Coupe, Vite Famille. Un grand merci à vous, en tout cas. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.